rencontre avec la folie. Partie 2. Enfermer les fous.
Donc c'est la première rencontre avec la folie, c'est ça ?
Pas forcément la première, une rencontre.
C'est une rencontre, ouais. Bah, on va dire la première alors.
Okay. Je sais pas si c'est mon premier lien, en tout cas avec la folie, mais quand j'étais enfant, il y avait une femme de ma famille à l'époque. Enfin, maintenant je sais quel lien de parenté on avait, mais à l'époque je comprenais pas très bien. Et c'est une femme qui avait du coup des problèmes psychiatriques et que ma mère était un peu la seule personne qui continuait un peu à s'occuper d'elle et à veiller un peu du coup sur elle, parce que je pense que les autres avaient complètement lâché. Et du coup, on allait la visiter de temps en temps dans les différentes institutions dans lesquelles elle était et dans lesquelles elle restait jamais vraiment très longtemps. Du coup, on avait fait toute une série de différents endroits.
L'expérience que j'ai de la folie, c'est une expérience qui remonte à très loin. Il se trouve que j'ai été... je faisais des études en psycho à l'époque. Enfin, je suis pas psychologue, mais enfin, il se trouvait que c'était dans les années 70, dans les années effervescentes, 70-75, et que j'étais à la Borde pendant... un passage un petit peu obligé des gens qui réfléchissaient sur... Enfin, la folie était un thème, j'allais dire, était un thème véritablement de société. Et elle n'était certainement pas entendue dans un sens, dans le sens peut-être dont on en parle quand on est normal. C'est-à-dire quelque part, la folie, c'était l'expression... on était nourri à l'antipsychiatrie, à l'anti-Oedipe, etc. Et la Borde était un des modèles d'institutions antipsychiatriques et révolutionnaires, parce que c'est peut-être ce qui diffère aujourd'hui. C'est beaucoup plus inclusif aujourd'hui. Donc j'ai fait un stage, je suis resté un mois à la Borde. Et donc là, j'ai eu effectivement de fait contact avec ce qu'on appelle des fous. Et j'étais très mal à l'aise, mais pas dans le sens, de considérer qu'il y avait des gens qui pouvaient être dangereux selon les préjugés qu'on a. Mais le mal à l'aise s'est très vite introduit au sens que je ne me sentais pas normal dans cette institution.
J'avais 21 ans, il y a 50 ans donc. Et j'étais institutrice en éducation spécialisée. Et j'ai été nommée, sans aucune formation bien sûr, dans un service psychiatrique pour enfants, à l'hôpital de la Salpêtrière. Et donc... j'avais une classe un peu bizarre, enfin évidemment des enfants qui venaient parfois pas très nombreux, qu'importe. Je travaillais surtout dans ce service où j'allais chercher mes élèves pour les emmener dans la classe. Et dans ce service, il y avait un petit Richard, autiste, même si à l'époque je savais pas mettre de nom. Les réunions s'étiraient pour savoir quel qualificatif, quel diagnostic, quel terme employer pour tel ou tel gamin. Bon, bref, Richard, autiste, je pense. Et la seule personne qui s'occupait à peu près de Richard dans le service, c'était Marie-Ange, la fille de salle, comme on disait à l'époque. Donc, quand Marie-Ange était là, ça allait à peu près. Bon, un matin, j'arrive dans le service, une odeur de merde. Incroyable. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben c'est Richard, il s'est badigeonné. Je dis, oui, d'accord, mais vous l'avez pas. Ben non, Marie-Ange n'est pas arrivée. Bon, je dis, c'est pas grave, je vais m'en occuper, je vais donner un bain à Richard. Donc je donne un bain à Richard, tout se passe bien. Et à la fin du bain, je le prends dans mes bras, je le porte comme ça, il me regarde avec un grand sourire et bing, il me fiche un coup de boule. Bon, ok, ok Richard. Et bon, voilà, c'est un moment, mais surtout ce qui m'a frappé forcément, c'était toute cette ambiance. C'était un service en fait de passage. Les gamins, ils étaient récupérés, soit ils erraient sur la voie publique, soit les parents étaient ceci, cela. Donc on les mettait là, c'était un centre de tri en gros, savoir où est-ce qu'on allait ensuite, dans quel institut on allait les mettre. Et donc Richard, c'était quand même un cas particulier. Et quand il hurlait dans les services, dans les couloirs du service, les infirmiers prenaient leur élastique de garrot et lui filaient un coup d'élastique pour qu'il aille hurler ailleurs. Bon, voilà. Je pourrais en raconter plus, mais c'est ma première image de la folie, on va dire. Ma première rencontre avec la folie. Institutionnelle, en tout cas.
On savait que dans cette institution, il y avait tout un travail qu'on retrouve sous d'autres formes aujourd'hui. Le fait, par exemple, on parlait des pensionnaires, mais que tout le monde était pensionnaire. C'est-à-dire que quand vous arriviez dans l'institution, vous étiez censé vous-même être capable de faire des soins, entre autres des piqûres, même si vous n'étiez pas médecin. Et y avait cette espèce de, peut-être de, je sais pas, de tolérance qu'on pouvait passer d'un statut à un autre, du statut de la normalité ou pathologique, etc. Et donc, je peux dire que je perdais mes points de repère, c'est-à-dire que ces lignes de fuite, quelque sorte passées d'un monde à l'autre, faisaient qu'il y avait un doute, effectivement, sur sa propre normalité. Et là, j'ai rencontré ce qu'on appelle des fous, mais peut-être ce qu'on appelle... C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas pareil, ce qu'on appelait les bons fous, parce qu'il y avait les bons fous et les mauvais fous. Les bons fous, la plupart du temps, c'était être schizophrène, parce que schizophrène, on parlait de créativité, c'était les créatifs, c'était l'idéal révolutionnaire, c'était effectivement, tout ça était quand même très très politisé. Et les mauvais fous, ceux dont on pouvait avoir peur, c'était ceux qui étaient catégorisés comme paranoïaques. Et ceux-là, je dois dire, alors ça c'est mon regard, dans l'institution, ils étaient peut-être laissés un petit peu de côté. Il y avait des ateliers hein, dans l'institution avec Félix Guettari, avec Jean-Henri, enfin c'est pas les mêmes écoles, mais il y avait des ateliers avec, j'allais dire, les schizophrènes. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que très rapidement, j'ai été interpellé moi-même, je savais pas que faire véritablement, où aller, et finalement je commençais à faire ce que font ce que je voyais de la plupart des fous à la Borde, d'un endroit où il y a la forêt tout autour, il y a un château, et qu'est-ce qu'on faisait à la Borde quand on était, enfin tout le monde, quand on était fou et qu'on n'arrivait pas, finalement moi j'arrivais pas à trouver un statut parce que les piqûres j'avais pas envie d'en faire, j'avais pas envie d'être cette position là. Donc je marchais, la plupart des fous, je sais pas, les pensionnaires marchaient de manière circulaire, enfin presque toute la journée, on faisait les mêmes ronds, les mêmes. Et il y avait un personnage qui était moi j'étais jeune, j'avais, je sais pas, 28 ans, 29 ans, qui était un monsieur, qui était dans le cinéma, qui était réalisateur et qui était un pensionnaire vraiment, vraiment malade. Et il me voyait circuler comme ça. Et dans mes circulations, mon seul souci, c'était éviter de les rencontrer, parce que j'avais peur de quelque part de leur regard. Je me sentais, moi, vulnérable.
quand j'avais 16-17 ans, j'ai vraiment eu des crises d'angoisse assez fortes qui m'ont beaucoup effrayée. Et ça a duré très longtemps. Et pendant une vingtaine d'années, à peu près. Et donc, ces crises d'angoisse étaient tellement puissantes, alors pas au point d'avoir forcément besoin de médication ou de séjour en hôpital, mais quand même, c'était quelque chose qui était très effrayant pour moi et que j'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser. Et donc, c'est très surprenant parce qu'en 2018, dans mon travail de photographe, j'ai lu un livre de Marie de Pusset qui s'appelait « Dieu gît dans les détails ». Donc c'est Marie de Pusset, elle était professeure de littérature et psychanalyse à Jussieu. Et elle, voilà, je faisais une fac de lettres à l'époque, donc j'ai suivi quelques cours avec elle. Et j'ai lu ce livre et j'ai eu très envie d'aller faire un travail photographique à la Borde. Et en fait, ce que je voudrais simplement dire, et peut-être je vais d'ailleurs m'arrêter là, c'est que ça a été quelque chose de très fort pour moi de finalement d'arriver jusqu'à la Borde, parce que ça me terrifiait tellement, ce monde de la folie, que ce livre a été vraiment une entrée vers la psychothérapie institutionnelle et tout ce mouvement, et qui a complètement changé mon regard sur la folie, sur ce que c'était que les fous, et sur et je pense maintenant que ça m'a permis vraiment de créer des ponts entre ce que j'avais vécu et ce que j'ai rencontré en m'y rendant pendant un an, 2-3 jours par mois, en essayant de faire des ateliers photo. Donc en allant à la Borde comme ça, en fait, je me suis aussi familiarisée. Et j'ai aussi, je pense, déconstruit, alors pas totalement, hein, mais une partie de mes préjugés.
Nous, on ne comprenait pas très bien quel lien on avait directement avec elle. En fait, c'était, c'était une femme qui était de la famille de ma grand-mère, mais qui elle-même a été adoptée. Donc, c'est une histoire un peu compliquée. Et je pense qu'elle-même ne savait pas trop qui nous on était. Enfin, on n'avait pas vraiment d'interaction, mais voilà, on allait la voir et on se retrouvait du coup dans des tas d'endroits d'institutions qui n'étaient pas toujours très très jolies à voir pour des enfants. Et voilà. Enfin, moi, ça m'a laissé des images assez fortes de certaines situations qu'on a vues du coup, et aussi voilà, d'endroits qui étaient, je pense, assez maltraitant finalement pour les gens qui vivaient là, quoi. Du coup, en tant qu'enfant, c'est vrai que c'était un peu particulier, mais finalement c'était aussi rigolo, enfin. Voilà, je l'ai compris plus tard, mais c'est vrai que j'ai compris plus tard que cette personne avait fait plusieurs tentatives de suicide, que voilà, si elle était placée, c'est que elle était devenue dangereuse pour elle-même, elle devait rester du coup, mais en même temps, ça me posait question parce que c'est quand même. Enfin, chacun a droit un peu à décider de sa vie ou de sa mort, de comment. Voilà. Donc, c'est vrai que cette question aussi, des fois, de protection de quelqu'un, à un moment où il ne sait plus lui-même vraiment décider de qu'est-ce qu'il veut, et ça tombe, il a plus spécialement envie de vivre, et surtout pas dans certaines conditions. Voilà, mais. Mais en tout cas, oui, c'est faire l'expérience de sociabilisation complètement différente. Voilà.
Et du coup, quand est-ce que, ou est-ce que, t'as mis le mot de folie sur ce que tu décrivais au tout début de ton témoignage, des crises d'angoisse?
En fait, j'avais peur de devenir folle, vraiment. J'avais peur, c'était tellement puissant, c'était vraiment un. Je ressentais vraiment comme un dédoublement J'étais vraiment comme à côté de mes pompes, mais vraiment, c'est-à-dire que je me voyais, je pouvais tout à fait fonctionner, parler avec tout le monde, travailler, etc. Et j'étais complètement à côté. Et ça précisément, je me disais, oh, mais l'étape d'après, c'est que je pars tout à fait et que je ne sais pas, je ne trouverai pas le chemin du retour. Mais là, les deux coexistaient. Et c'était une peur immense de basculer dans quelque chose dans lequel je perdrais complètement pied.
Et ce monsieur, je l'avais repéré, parce que comme il venait à ma rencontre, et il m'interpellait, je dirais presque à la manière d'un psychanalyste. Quoi. Il me regardait dans les yeux, et moi je le vivais comme qu'il ressentait mes faiblesses. Je ne me souviens plus ce qu'il me disait, c'était un mot, comme dans une psychanalyse. Et donc... voilà, j'éprouvais ma propre vulnérabilité, c'est pour ça que je vais dire la folie, oui, je sais pas ce que c'est, je peux pas la, évidemment me mettre à la place du vécu de ces gens-là, mais du coup, j'avais l'impression de, quelque part, de sombrer, moi, de l'autre côté. Alors effectivement, j'ai jamais sombré, mais par la suite, je suis rentré en analyse. Bon. Mais je pense que c'est ce rapport avec cette circulation, c'est ce rapport qui m'a fait prendre conscience de ma fragilité et que, voilà, mais pour dire que la folie, je ne sais pas très bien ce que c'est. Alors, les paranoïaques... il y en avait, mais j'ai eu aucun contact avec eux. J'ai eu des contacts avec des autres pensionnaires qui avaient véritablement, effectivement, qui se prenaient à l'époque, qui se prenaient pour un des chefs de la bande à Bader. Mais on pouvait avoir des discussions, on pouvait jouer le jeu en quelque manière. On pouvait se prendre au mot et au jeu. Moi, je me souviens avoir des discussions très politiques parce que j'étais, je sais pas, maoïste, etc. Donc, lui se prenait pour le chef de la bande à Bader, etc. Mais à la limite, la différence, c'est que, bon, effectivement, moi, je pouvais effectivement, mais peut-être, m'évader, mais je, voilà, et ce. Et ce personnage, cette personne. Bon, parce qu'à la borne, il y en avait certains qui y restaient très longtemps, mais il y en avait d'autres qui faisaient des passages, qui sortaient. Cette personne, je l'ai retrouvée, et il se trouvait qu'il est juif, je suis juif, je l'ai retrouvée. Je suis pas vraiment pratiquant, mais ça m'est arrivé d'aller à la synagogue, et je l'ai retrouvée parmi les gens pratiquants à la synagogue. Ça a été un moment de ses passages, et lui-même est devenu psychanalyste. Donc ça m'a beaucoup interrogé parce que je savais qu'il était, qu'il avait des comportements qu'on pourrait dire pas tout à fait ordinaires. Par exemple, un de ses comportements, j'étais avec mon premier enfant, avec mon fils, j'avais 28 ans, j'avais un garçon, c'est le demi-frère de Léa, qui s'appelle Luc, et il avait 4 ans quand il était à la borne, et lui, il a... Et ça a été, je sais pas s'il s'en souvient, mais c'est devenu une histoire un peu colportée dans la famille. Un fou l'a pris dans une brouette, parce que ce fou circulait comme ça, avec une brouette, et il était, c'était extraordinaire, quoi. C'était comme dans un manège. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'après, ce personnage dont je vous parle, avec qui j'ai des discussions politiques, il y a une espèce de relation qui s'est cristallisée entre nous deux, qui était assez forte, et une fois, je l'ai retrouvé par hasard... en face de Jussieu, à l'époque, oui, Jussieu, l'université, et il y avait un endroit qui est un petit restaurant, enfin, comme une, pas une cantine, mais un petit restaurant pas cher, et, où tout d'un coup je le rencontre. Et j'étais avec mon fils, alors là, qui n'avait plus 4 ans, mais qui avait, c'est bien longtemps après, je le rencontre par hasard, qui avait 15 ans, 16 ans. Il était sorti de... Enfin, il faisait des allers-retours entre la borne, mais bon, il n'était plus en permanence. Et quand il a vu mon fils, il a fait une crise de jalousie. Dans le restaurant, il a cassé toutes les assiettes, il a éclaté, il était jaloux, effectivement. Bon, voilà peut-être là une expression réelle d'un comportement qu'on peut... Mais en même temps, ces comportements, on peut les avoir soi-même. Hein, je veux dire, la jalousie, les trucs, les machins, le fait de passer à l'acte, de tout casser... On le fait pas, mais ça peut arriver. Donc, voilà. Donc, mon expérience, c'est que ben, la folie, elle, bon, il y a différentes formes de folie, mais qu'est-ce que c'est, quoi.
Et du coup, quand t'es arrivé à la borne, t'es arrivé avec ce mot de folie direct pour le coup sur les personnes que tu rencontrais là-bas.
Oui, mais c'est ça qui était intéressant, c'est que ce qui était intéressant, c'est que moi, bien sûr, je suis arrivée avec ce mot, et en même temps, mais comme toutes les frontières sont abattues ou presque, il y a d'emblée des gens que j'ai pris pour des fous qui étaient des soignants, et inversement, et donc ça a commencé à faire vaciller ces préjugés là, c'est... J'étais prise à mes propres pièges de mots placés sur la folie. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Enfin, ça m'a vraiment bousculée. Et puis, cette difficulté que j'ai pu avoir avec certains donc, moniteurs qui ne comprenaient pas tellement pourquoi je venais, qui me jugeaient un peu, qui me disaient « oui, toi, t'es de Paris enfin, ». Et puis, il y a des gens fous donc, qui m'ont défendue, en fait, et qui... Et donc tout a été très sans arrêt, les places de chacun ont sans arrêt bougé. Là, quand j'étais, enfin voilà, d'y aller, de m'y confronter, c'était vraiment sans arrêt quelque chose bougeait. Et donc c'était hyper riche et intéressant.
Quelques rencontres avec la folie est une série en 3 épisodes enregistrée à l'occasion de la fête des 3 ans de la broussaille.
L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Justine pour Radio Vassivière à partir d'une idée de la broussaille.
Pour plus d'informations sur ce lieu de création et de répit, rendez-vous sur leur site internet labroussaille.org et retrouvez tous les épisodes sur le site de la radio. C'est radiovassivière.org.